Le jour de la disparition. Samedi 30 août 1975.
Centrale de la police, quelle est votre urgence?
Allô? Mon nom est Deborah Cooper. J'habite à Side Creek Lane. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt.
Que s'est-il passé exactement?
Je ne sais pas. J'étais à la fenêtre, je regardais en direction des bois et là, j'ai vu cette jeune fille qui courait entre les arbres. Il y avait un homme derrière elle. Je crois qu'elle essayait de lui échapper.
Où sont-ils à présent?
Je ne les vois plus. Ils sont dans la forêt.
Je vous envoie immédiatement une patrouille, madame.
C'est par cet appel que débuta le fait divers qui secoua la ville d'Aurora dans le New Hampshire. Ce jour-là, Nola Kellergan, 15 ans, une jeune fille de la région, disparut. On ne retrouva plus jamais sa trace. Prologue. Octobre 2008, 33 ans après la disparition. Tout le monde parlait du livre. Je ne pouvais plus déambuler en paix dans Manhattan, je ne pouvais plus faire mon jogging sans que des promeneurs me reconnaissent et s'exclament « Hé, c'est Goldman, c'est l'écrivain !» Il arrivait même que certains entament quelques pas de course pour me suivre et me poser les questions qui les taraudaient. « Ce que vous y dites dans votre bouquin, c'est la vérité? Harry Kéber a vraiment fait ça ?» Dans le café de West Village, où j'avais mes habitudes, certains clients n'hésitaient plus à s'asseoir à ma table pour me parler. « Je suis en train de lire votre livre, monsieur Goldman. Je ne peux pas m'arrêter. Le premier était déjà bon, mais alors celui-là... On vous a vraiment filé $1 million pour l'écrire? Vous avez quel âge? 30 ans à peine? Même pas 30 ans! Et vous avez déjà amassé tellement de pognon !» Le portier de mon immeuble, que je voyais avancer dans sa lecture entre deux ouvertures de porte, avait fini par me coincer longuement devant l'ascenseur, une fois le livre terminé, pour me confier ce qu'il avait sur le cœur. « Alors voilà ce qui est arrivé à Nola Kellergan. Quelle horreur! Mais comment en arrive-t-on là? Hein, monsieur Goldman, comment est-ce possible ?» Le tout New York se passionnait pour mon livre. Il y avait 2 semaines qu'il était paru et il promettait déjà d'être la meilleure vente de l'année sur le continent américain. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé à Aurora en 1975. On en parlait partout, à la télévision, à la radio, dans les journaux. Je n'avais même pas 30 ans, et avec ce livre, qui était seulement le 2e de ma carrière, j'étais devenu l'écrivain le plus en vue du pays. L'affaire qui agitait l'Amérique, et dont j'avais tiré l'essence de mon récit, avait éclaté quelques mois plus tôt, au début de l'été, lorsqu'on avait retrouvé les restes d'une jeune fille disparue depuis 33 ans. C'est ainsi que débutèrent les événements du New Hampshire, qui vont être rapportés ici, et sans lesquels la petite ville d'Aurora serait certainement demeurée inconnue du reste de l'Amérique. Première partie, la maladie des écrivains. 8 mois avant la sortie du livre. Chapitre 31. Dans les abîmes de la mémoire.
Le premier chapitre, Marcus, est essentiel. Si les lecteurs ne l'aiment pas, ils ne liront pas le reste de votre livre. Par quoi comptez-vous commencer le vôtre?
Je ne sais pas, Harry. Vous pensez qu'un jour j'y arriverai?
À quoi?
À écrire un livre.
J'en suis certain.
Au début de l'année 2008, soit environ 1 an et demi après être devenu, grâce à mon premier roman, la nouvelle coqueluche des lettres américaines, je fus frappé d'une terrible crise de page blanche, syndrome qui, paraît-il, n'est pas rare chez les écrivains ayant connu un succès immédiat et fracassant. La maladie n'était pas venue d'un coup. Elle s'était installée en moi lentement. C'était comme si mon cerveau, atteint, s'était figé peu à peu. À l'apparition des premiers symptômes, je n'avais pas voulu y prêter attention. Je m'étais dit que l'inspiration reviendrait le lendemain, ou le jour d'après, ou le suivant peut-être. Mais les jours, les semaines et les mois avaient passé et l'inspiration n'était jamais revenue. Ma descente aux enfers s'était décomposée en 3 phases. La première, indispensable à toute bonne chute vertigineuse, avait été une ascension fulgurante. Mon premier roman s'était vendu à 2 millions d'exemplaires, me propulsant au rang d'écrivain à succès. C'était l'automne 2006 et en quelques semaines, mon nom devint un nom. On me vit partout, à la télévision, dans les journaux, en couverture des magazines. Mon visage s'affichait sur d'immenses panneaux publicitaires dans les stations de métro. Les critiques les plus sévères des grands quotidiens de la côte Est étaient unanimes. Le jeune Marcus Goldman allait devenir un très grand écrivain. Un livre, un seul, et je me voyais désormais ouvrir les portes d'une nouvelle vie, celle des jeunes vedettes millionnaires. Je déménageais de chez mes parents à Montclair, New Jersey, pour m'installer dans un appartement cossu du Village. Je troquais ma Ford de troisième main pour une Range Rover noire flambant neuve aux vitres teintées. Je me mis à fréquenter les restaurants huppés. Je m'attachais les services d'un agent littéraire qui gérait mon emploi du temps et venait regarder le baseball sur un écran géant dans mon nouveau chez-moi. Je louais, à deux pas de Central Park, un bureau dans lequel une secrétaire un peu amoureuse et prénommée Denise triait mon courrier, préparait mon café et classait mes documents importants. Durant les 6 premiers mois qui suivirent la sortie du livre, je m'étais contenté de profiter de la douceur de ma nouvelle existence. Le matin, je passais à mon bureau pour parcourir les éventuels articles à mon sujet et lire les dizaines de lettres d'admirateurs que je recevais quotidiennement et que Denise rangeait ensuite dans des grands classeurs. Puis, content de moi-même et jugeant que j'avais assez travaillé, je m'en allais flâner dans les rues de Manhattan où les passants bruissaient à mon passage. Je consacrais le reste de mes journées à profiter des nouveaux droits que la célébrité m'octroyait, droit de m'acheter tout ce dont j'avais envie, droit aux loges VIP du Madison Square Garden pour suivre les matchs des Rangers, droit de marcher sur des tapis rouges avec des stars de la musique dont j'avais, plus jeune, acheté tous les disques, droit de sortir avec Lydia Glore, la top modèle du moment. J'étais un écrivain célèbre. J'avais l'impression d'exercer le plus beau métier au monde. Et certain que mon succès durerait toujours, je ne m'étais pas soucié des premiers avertissements de mon agent et de mon éditeur qui me pressaient de me remettre au travail et de commencer à écrire mon second roman. C'est au cours des 6 mois suivants que je réalisais que le vent était en train de tourner. Les lettres d'admirateurs se firent plus rares et dans les rues on m'abordait moins. Bientôt, ceux des passants qui me reconnaissaient encore se mirent à me demander « Monsieur Goldman, quel sera le sujet de votre prochain livre? Et quand sortira-t-il ? » Je compris qu'il fallait m'y mettre et je m'y étais mis. J'avais noté des idées sur des feuilles volantes et esquissé des synopsis sur mon ordinateur. Mais rien de bon. J'avais alors pensé à d'autres idées et esquissé d'autres synopsis. Mais sans succès non plus. Je m'étais finalement acheté un nouvel ordinateur dans l'espoir qu'il serait vendu avec de bonnes idées et d'excellents synopsis. Mais en vain. J'avais ensuite essayé de changer de méthode. J'avais réquisitionné Denise jusque tard dans la nuit pour qu'elle prenne en dictée ce que je pensais être de grandes phrases, de bons mots et des attaques de romans exceptionnels. Mais le lendemain, les mots me paraissaient fades, les phrases bancales et mes attaques des défaites. J'entrais dans la seconde phase de ma maladie. À l'automne 2007, il y avait une année que mon premier livre était paru et je n'avais pas encore écrit la moindre ligne du suivant. Lorsqu'il n'y eut plus de lettres à classer, que dans les lieux publics on ne me reconnaissait plus et que dans les grandes librairies de Broadway, les affiches à mon effigie avaient disparu, je compris que la gloire était éphémère. Elle était une gorgone affamée et ceux qui ne la nourrissaient pas se voyaient rapidement remplacés. Les hommes politiques du moment, la starlette de la dernière émission de télé-réalité, le groupe de rock qui venait de percer, avaient repris pour eux ma part d'attention. Il ne s'était pourtant écoulé que 12 petits mois depuis mon livre, un laps de temps ridiculement court à mes yeux, mais qui, à l'échelle de l'humanité, correspondait à une éternité. Durant cette même année, pour la seule Amérique, 1 million d'enfants étaient nés, 1 million de personnes étaient mortes, une bonne dizaine de milliers s'étaient fait tirer dessus, 500 000 avaient plongé dans la drogue, 1 million étaient devenus millionnaires, 17 000 avaient changé de téléphone portable, 50 000 étaient décédés dans un accident de voiture, et dans les mêmes circonstances, 2 000 avaient été blessés plus ou moins gravement. Quant à moi, je n'avais écrit qu'un seul livre.